Léa,
Clément,
Maïli,
Martin,
Kauta,
Noan,
Joyce,
Iman,
Nil, Léonce,
Jeanne.
Making Waves.
Sonneau Maujat, Avignon.
Présente.
À la jeunesse,
les micros.
Au Bacharatan, Mimirajan, Avignon.
Les microphonettes, l'Ichevet.
Bonjour, mesdames et messieurs.
Bonjour, Martin.
Kaotar, Maïli, Noan, Joyce et Léa.
Bonjour.
Hola.
Bonjour également à Clément, et Iman qui sont à la réalisation.
Bonjour.
J'espère que vous êtes en forme. Nous sommes en direct du Festival d'Avignon pour la troisième émission de À la jeunesse, les micros. Tes yeux m'ont rappelé les jours qui ne sont plus.
Raja'ouni aïneki ayami li rahou. C'est le titre de cette émission. Tiré d'un vers du poète égyptien Ahmed Shafir Kamal. Et l'amour serait au centre de celle-ci.
L'amour, l'amour, l'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? Un je t'aime? Une belle lettre remplie d'émotions? Ou encore un geste tendre? L'amour signifie tellement de choses, mais c'est au final un mot assez abstrait. Un mot qui est utilisé pour représenter quelque chose d'intangible, parfois même d'indescriptible. Et pourtant, ce mot est employé partout, tout le temps. Dans les films, dans les livres, entre amis, avec sa famille ou son partenaire. Il est aussi utilisé pour caractériser notre attachement à un lieu, à un objet, à un moment.
À la jeunesse, les micros !
Maintenant, j'aimerais vous interroger, vous, mes très chers, précieux, bouleversants, tendres, affectueux, sensiblement. La liste est encore longue, les amis. À quel moment vous vous êtes senti le ou la plus aimé dans votre vie? Quel est votre plus beau souvenir d'amour? Noan?
Moi, mon plus beau souvenir d'amour, c'était à la plage, quand je suis allé faire des vacances à la Fitenea, plus précisément, dans le Pays Basque. J'avais bricolé un lit à l'arrière de ma voiture, une ancienne voiture que j'ai crachée. Et voilà, on était juste à côté de la plage, donc on dormait sur place, on buvait des coups, on dessinait, et c'était un très bon souvenir.
Et toi, Martin, raconte-nous un souvenir dont tu es tombé amoureux.
Bah moi, quand j'étais plus petit, j'avais un petit sort de rituel. Tous les soirs, avant de me coucher, j'appelais mes parents pour dire « Bonne nuit, maman, bonne nuit, papa ». Mais attention, il y avait une petite subtilité. Il fallait qu'il y ait une réponse en retour. Il fallait un « Bonne nuit, Martin ». Sinon, je pouvais vraiment pas tomber dans les bras de Morphée, tout simplement.
Kaotar, quand tu aimes, c'est de tout ton cœur?
Ouais, ah non, mais de tout mon cœur, de tout mon corps. Moi, dans ma langue natale, je t'aime se dit Kenbrick. Je te veux maintenant et pour toujours. Et je trouve que ça en dit très très long sur ma manière de percevoir l'amour. D'ailleurs, j'ai de plus en plus tendance à éliminer ce mot, je t'aime, de mon vocabulaire. J'ai toujours eu l'impression qu'il m'était un peu étranger et qu'il ne me représentait pas vraiment. Kenbrick, pour moi, c'est tellement plus fort.
Léa?
L'un de mes souvenirs préférés, c'est quand un jour mes amis Noah et Eden m'ont dit de venir chez eux sans contexte. Quand je suis rentrée dans l'appartement, ils m'ont juste tendu un sac Fnac sans explication, sans rien. Et à l'intérieur, il y avait le jeu Zelda sur Switch que j'attendais depuis très longtemps, mais j'avais pas les sous pour me l'acheter. Et maintenant que j'y pense, je sais même pas si je leur ai dit merci. Mais je pense que la raison pour laquelle j'aime autant ce souvenir, c'est parce qu'ils s'en foutaient totalement de que je dise merci, que je sois poli. Ils étaient juste trop. Ils savaient que ça allait me rendre heureuse. Donc voilà.
Je me tourne vers Maïli. Quel est le geste le plus tendre qu'on t'ait fait?
Alors moi, le geste le plus tendre qu'on m'ait fait, c'est lorsque ma mère m'a organisé un anniversaire pour mes 18 ans avec tous mes proches et mes amis. Et je ne m'y attendais pas du tout et j'ai ressenti tellement d'émotions quand j'ai vu tous mes proches réunis. Et à ce moment-là, je me suis vraiment sentie aimée. Et donc, j'ai juste envie de dire merci maman.
Adorable. Joyce, es-tu déjà tombée amoureuse d'un spectacle?
C'est évident. C'est une pièce qui s'appelle Angel in America de Tony Kushner. J'ai vu la pièce à la Comédie Française en avril 2023. Et cette pièce parlait de la pandémie du sida dans les années 90. Je l'ai vue, j'ai acheté le livre, j'ai lu 4 fois le livre et je le chéris encore aujourd'hui.
Ça m'étonne pas. Merci Joyce. Vous avez pour certains raconté en ce début d'émission le moment où quelqu'un a pu vous exprimer son amour. Malheureusement, à l'heure actuelle, l'amour est aussi devenu quelque chose de politique. Pouvoir être amoureux, ce n'est pas donné à tout le monde. Des personnes se battent encore aujourd'hui pour pouvoir avoir le droit de se dire amoureux, amoureuse, se marier ou même avoir des enfants. Ce qui fait notre humanité, l'amour, est encore questionné, jusqu'à même être illégal dans certains pays. L'amour, ce sentiment pur, vif, ce lien recherché par tous, est pour certains synonyme de mort.
À la jeunesse ! À la jeunesse ! Les migrants.
Bonjour Claire Fritel, bonjour Tiffaine Gentillot, bonjour Naïssa Mbialal et bonjour Solal Mariotte.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'À la jeunesse, les micros. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui pour parler d'amour.
On reçoit aujourd'hui la compagnie Les Filles de Simone qui présente leur spectacle à Avignon, Les Subversives. Tiffaine, Claire, vous nous invitez à découvrir différentes communautés de femmes qui ont inventé d'autres manières de faire société. Une communauté de lesbiennes dans l'Oregon, les Baba Yaga à Montreuil et les Beguines au Moyen-Âge. On parlera tout à l'heure de comment ces communautés appréhendent l'amour.
Solal, vous avez commencé par le hip-hop avant de rejoindre le conservatoire d'Annecy. Vous intégrez ensuite la compagnie d'Anne-Thérèse de Kirsmaker, avec qui vous collaborez sur Brel, le spectacle que vous présentez à Avignon. Un spectacle autour des chansons de Jacques Brel, qui a beaucoup chanté l'amour. Vous explorez les notions d'héritage et d'identité dans votre travail. J'ai d'ailleurs vu que vous aviez un solo collage ravage qui parle des virilités et des stéréotypes de genre. Solal, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui dans le cadre de cette émission autour de l'amour. Merci d'être sur le plateau avec nous.
Naïssa Mjalal, vous êtes flûtiste, compositrice et chanteuse. Vos compositions mêlent les sonorités orientales et occidentales, le jazz, le soufi et le classique. Et vous êtes à l'affiche du spectacle Nour qui se veut une célébration poétique de la langue arabe pendant ce festival.
Votre musique est spirituelle et engagée. Vous soufflez un cri puissant qui raconte l'exil, le révolte, le silence et l'amour. Vous dites de votre musique qu'elle est le reflet de ce monde fou, à la fois d'une extrême violence et d'une grande beauté. Votre flûte est un pont entre les cultures. Une ode à l'ouverture et à l'échange. C'est peut-être l'une des plus belles expressions de l'amour, celle qui unis, par-delà les différences. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Claire, vous êtes l'une des cofondatrices de la compagnie des Filles de Simone. Vous êtes formidable. J'invente rien, c'est écrit dans vos biographies.
C'est Tiffaine qui l'a écrit.
Votre compagnie questionne la relation complexe que les femmes entretiennent avec leur corps, sans oublier bien sûr la façon singulière d'explorer le terrain miné par le patriarcat du couple hétérosexuel. Merci d'être là avec nous sur le plateau aujourd'hui.
Merci.
Tiffaine, également cofondatrice des Filles de Simone, vous êtes un couteau suisse. Vous avez appris à utiliser Photoshop, coudre des animaux en tissu, jouer des pièces et en écrire. Vous avez commencé dans un café-théâtre avant de devenir dramaturge en tant que fille de Simone. Vous êtes sensible et en plus vous savez même faire l'accent québécois. On est très heureux de vous avoir avec nous. Et j'ai une première question pour vous, Tiffaine. C'est quand la dernière fois que vous avez dit « je t'aime » ?
Ça commence sévère.
Alors, la dernière fois que j'ai dit « je t'aime », je pense que la dernière fois, c'était à mes enfants.
Oh.
Voilà, qui sont partis en colo pour la première fois. Alors, voilà.
Est-ce que vous avez déjà dit « je t'aime » sans le penser, Solal ?
Alors, waouh. Ça commence, je me mets dedans doucement. Est-ce que j'ai dit « je t'aime » sans le penser ?
Oui. Par politesse, par exemple.
Par politesse, « je t'aime », non, je ne pense pas, j'ai dit « je t'aime ».
Sans le penser.
Mais je pense qu'il y a différents degrés de « je t'aime » dans différentes situations. Mm. Par exemple, je rebondis sur la question d'avant, « je t'aime », moi je l'ai dit pas plus tard que hier sur scène en empruntant les mots de Jacques Brel. Je m'adressais au public, c'est dans un contexte qui est très particulier, l'espace scénique. Mm. C'est très différent de l'intimité. Ouais. Donc je sais pas si ça donne...
Ça nous donne une bonne image en tout cas. Ouais. Nous savons qu'il y a plusieurs formes d'amour. L'amour romantique, platonique, familial, propre, spirituel et bien d'autres encore. Petit tour de table pour commencer. Est-ce que pour vous, l'amour s'exprime davantage avec le corps ou la parole ? Très philosophique.
Ça dépend de quel amour on parle. Moi, je suis quelqu'un qui dit beaucoup qu'il aime les gens quand il les aime vraiment. Enfin, voilà, je sais que je peux dire à un ami que j'aime, je t'aime fort, sans ambiguïté. Mais je sais que j'ai des amis qui diraient jamais à leurs amis, je t'aime fort. mais moi je le dis. Donc j'ai pas de... Je le dis avec les mots. Est-ce que je le dis avec le corps ?
En tant qu'artiste, par exemple ?
Bah, je le dis avec mon souffle. Après, je pense que le rapport d'un musicien à l'amour, en tout cas moi, mon rapport de musicienne à l'amour, c'est un rapport d'être humain à la musique, en fait. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est la musique. Parce qu'elle est vitale, parce qu'elle me maintient en vie, parce qu'elle est la seule chose en fait, qui me permet de tenir dans ce monde de merde.
Je partage.
Et en vrai, quand je dis ça, je suis sérieuse. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui pourraient vivre sans musique. Il y a des gens qui peuvent vivre sans musique. Moi, je ne peux pas vivre sans musique, en fait.
Mais on est tous les deux pareils, c'est pour ça que je jette la tête, je comprends totalement.
Voilà, et du coup, je pense que c'est vrai que j'entretiens un amour sans indicible. Mmh. J'entretiens un amour avec la musique qui est un amour absolu et vital, vraiment.
Et vous, Tiffaine et Claire, est-ce que du coup, vous exprimez votre amour davantage par le corps ou par la parole ?
Je dirais 50-50, je pense. Par le regard, beaucoup. Par l'écoute, par une forme d'énergie aussi. D'ouverture dans l'énergie. Enfin, mais je pense que c'est vraiment 50-50. Je pense que c'est important de dire son amour à ses amis, à la personne éventuellement avec qui on est, si on est avec quelqu'un, à ses parents, à ses enfants. Enfin, je pense que c'est important de l'énoncer. Il y a des gens qui ne l'énoncent jamais. Donc, je pense que la parole, c'est quand même important. Mais après, il y a aussi beaucoup de choses qui passent par les gestes. Moi, je sais que, par exemple, j'ai eu un père qui passait tout par les gestes. Par exemple, par les repas qu'il me faisait. Ouais. Et je sais que c'était de l'amour, en fait, de me faire des spaghettis bolognaises.
Oui, je crois aussi que c'est un peu... Enfin, que c'est les deux. Le corps, il y a quelque chose qui ne ment pas. C'est difficile d'avoir un élan d'amour envers quelqu'un pour qui on ne ressent pas un amour sincère. Parfois, c'est très... On a quelqu'un de pudique devant soi, ou même soi-même, on l'est. Et donc, parfois, l'exprimer par le corps, ce n'est pas simple. Mais c'est vrai que moi, je l'exprime aussi par le corps. Oui, je vois avec mes enfants, avec mes parents. Enfin, j'aime bien faire des... Prendre dans les bras, embrasser, mais dans le sens de prendre dans les bras. Parce que, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait... Il y a aussi des ondes, quelque chose qui passe par le contact. Et après, moi, les mots, c'est très important pour moi. Donc, ça passe par les mots qu'on dit. Parce que je rejoins complètement Claire sur le fait que c'est vraiment important d'énoncer. Il y a tellement de choses qu'on ne dit pas et en général ça pèse lourd, et le fait de le dire, ça donne de la force, je crois, à la fois à celui ou celle qui le dit et à celui ou celle qui le reçoit. Et moi, je suis aussi comme toi, je le dis beaucoup à mes amis, voilà. Et puis moi, j'aime bien l'écrire aussi.
Vous parliez de vitalité et de musique. Moi, j'ai souvent entendu qu'on était plus créatif lorsqu'on était mal dans une relation ou mal dans notre vie. Est-ce que vos émotions jouent sur votre créativité, sur votre façon de faire de la musique ?
Alors oui, il y a beaucoup ce préjugé que je trouve absolument abject. C'est vrai que moi, je suis passée récemment par une période très compliquée, moralement, où j'étais très très malheureuse. Et où mon père me disait « C'est très bien, Naïssam, tu vas faire de la belle musique ». Et en fait, pas du tout, parce qu'en fait, quand tu vas très très mal, en fait, t'arrives à rien faire. Donc non, je suis pas d'accord avec cette idée-là. Je sais que j'ai fait des albums, j'ai composé de la musique et j'ai sorti des disques en allant très très mal, qui sont des disques qui ont bouleversé plein de gens, et où j'ai des retours de gens qui me disent que dans des situations très compliquées dans leur vie, par exemple des femmes qui ont traversé des cancers, ou des femmes qui ont dû avorter, ou des hommes qui ont dû faire le deuil de leur famille, qui se sont retrouvés avec cet album qui les a accompagnés et tout. Mmh. Et c'est des albums que j'ai créés, moi, en allant très très mal. Mais je sais aussi que j'ai composé et créé de la musique absolument lumineuse, en étant très heureuse, en étant pleine d'amour, en étant dans une espèce de d'ivresse d'amour hyper belle. Et c'est des albums aussi qui ont fait beaucoup de bien à plein de gens. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas de vérité. Et je pense que de toute façon, on a le droit, en tant qu'artiste, d'aller bien, d'être heureux, d'avoir de l'argent. Parce que ça, c'est aussi un autre sujet. Parce qu'une fois, j'avais été invitée à une table ronde où il y avait un mec qui disait « Oui, les artistes, quand ils galèrent, ils font des textes qui sont plus vrais que quand ils gagnent de l'argent. »
Ouais, mais on a le droit quand même de pas crever la dalle parce qu'on est artiste aussi, quoi. Donc on a le droit en tant qu'artiste d'être heureux et de gagner de l'argent et d'avoir une vie tranquille. On a le droit, quoi. Ouais. On a le droit.
Totalement.
Solal, comment on exprime l'amour par la danse?
Vaste sujet. Je rebondis parce que j'ai du mal à répondre à cette question, mais sur cet élan, cette vitalité, cette urgence de vivre. Avec la conscience aussi de la mort, en fait, c'est quelque chose que Brel ressent très fort dans ses chansons quand il parle aussi d'un amour universel, un amour du monde, en fait. Parce que le monde va mal, le monde... je rebondis sur ça, et c'est vrai que Brel était d'un autre temps aussi, mais quand il chante « Quand on n'a que l'amour », c'est aussi l'espoir dans l'humanité de témoigner aussi dans la danse, par exemple, le fait d'être sur scène, de se dire bah, « Peut-être que... ce que je donne, c'est un amour qui dépasse évidemment le genre, l'identité et tutti quanti, enfin, tout ce qui, c'est un amour de l'humain universel. Donc étant donné que la danse est un langage quand même assez abstrait, c'est vrai que ça peut toucher un endroit où les mots peuvent pas forcément résonner. C'est peut-être témoigner, vous parliez de gestes, la danse est un geste qui d'une forme abstraite mais qui peut émouvoir. D'ailleurs, mouvoir, enfin, c'est propre à la danse, de bouger. Pour le coup, Brel, c'est donner sans compter. Ouais. Mais vous parlez d'amour, c'est parfois l'amour victorieux qu'il peut éprouver dans certaines de ses chansons, comme Mathilde. Mais à l'inverse, par exemple, Ne me quitte pas, c'est un amour de soumission, d'abandon. C'est presque de l'ordre du too much. De l'amour, ça peut venir, en l'occurrence avec Brel, dans un endroit qui est désagréable, qui est viscéral, qui est émotif, mais qui déborde et qui effectivement vient rebondir sur des choses que vous disiez par rapport au fait d'être mal, quoi. Et je suis pas sûr que l'amour est censé, c'est l'amour romantique censé être faire mal. Peut-être l'amour, c'est celui du quotidien, c'est celui de passer du temps ensemble et vivre 30 ans ensemble. Je n'ai pas la réponse, mais pour donner le contre-pied à Brel, qui lui est dans une instant T extrême dans ses sentiments amoureux.
Et moi, j'ai une question. Est-ce que pour vous, il faut d'abord aimer son corps, l'accepter comme il est, pour pouvoir mettre le mettre au service d'un plateau, comme celui de Brel, par exemple?
C'est intéressant. Brel, il a commencé à chanter que... les gens disaient, il va jamais réussir parce qu'il a des dents de cheval, il est pas beau. Alors qu'en fait, moi, je trouve pas qu'il est pas beau. Mais il le dit même dans ses chansons, je ne suis pas beau. Et pour autant, je pense qu'il part d'un amour dans toute sa complexité, avec ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus dégoûtant dans l'amour. Et dans le rapport à l'estime de soi et à la confiance en soi, je pense qu'on passe tous par des étapes. Mais évidemment, dans l'idée de prendre la parole, dans l'idée de vouloir transmettre quelque chose, il faut avoir un espace en soi quand même de confiance et d'estime de soi. Sinon, on reste au lit, quoi. C'est des basiques, la confiance et l'estime, je pense qu'on en a tous besoin.
Pour rebondir sur l'estime de soi, est-ce que vous pensez que s'aimer, c'est important pour aimer l'autre? Cette question est pour tout le monde, donc je commence par Claire.
En tout cas... pour être en relation, je pense que c'est important de s'aimer. C'est pas facile de s'aimer, en fait. Il y a plein de moments où on s'aime pas, s'aimer, s'accepter, tout ça. Mais en tout cas, les moments les pires de la vie où on s'aime pas du tout, c'est des moments où souvent on se replie, on se referme. Et donc, c'est difficile de rentrer en relation avec les autres. Donc, oui.
Oui, je crois que c'est important. Mais moi, je crois que ce que je trouve aujourd'hui le plus important pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre... mais quel que soit le type d'amour, c'est de se connaître. Et de connaître ses limites pour pouvoir les respecter et aussi pouvoir être suffisamment en place pour pouvoir écouter celle de l'autre. Enfin, voilà.
Mais vous êtes d'accord avec ce que Tiffany vient de nous partager, Miss Nyssen?
Alors moi, je pense qu'on n'a pas du tout besoin de s'aimer pour aimer. Je pense qu'on peut aimer à la folie en s'aimant pas du tout. Mais ce que je suis sûre, c'est qu'en tout cas, il n'y a pas de relation équilibrée et il n'y a pas de relation saine si on ne s'aime pas.
Ça, c'est sûr. Oui.
Soi-même, voilà. Oui. Donc après, je pense qu'il y a la grande majorité des gens qui aiment, et la grande majorité des êtres humains, déjà, ils n'en sont pas au stade de s'aimer eux-mêmes, de s'accepter. Ils n'ont peut-être pas fait le chemin, ils n'ont peut-être pas fait les années de thérapie. Non, mais je suis sérieuse. En vrai, s'aimer, s'accepter, se connaître, ça prend des années. C'est un vrai travail de compréhension de soi. C'est un vrai travail de déconstruction aussi de tout ce qu'on a pu créer comme mécanisme dans l'enfance, dans les traumatismes, dans plein de choses, en fait. Donc, du coup, s'aimer, parce que c'est vachement à la mode, ouais, faut s'aimer et tout. Bah oui, il faut s'aimer. Mais c'est un...
Ça prend beaucoup de temps.
C'est un putain de chemin, en fait, de s'aimer. Voilà. Donc, heureusement qu'on n'a pas besoin d'être arrivé au stade de s'aimer pour pouvoir aimer, parce que sinon, on n'aimerait jamais, quasiment. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est énorme.
Ou alors, on aimerait à l'âge de 70 ans, quand on a fait le tour, tu vois. Donc, je pense que, oui, plus on va être dans une relation équilibrée, bah, plus elle sera saine. Et que pour être dans cette relation-là, que ce soit avec des amis ou que ce soit avec des amants ou que ce soit avec des enfants ou avec des parents, il faut avoir effectivement l'estime de soi, connaître ses limites, savoir quand est-ce qu'on dit stop, quand est-ce qu'on se protège, quand est-ce qu'on se brûle, enfin voilà.
C'est et vous, Solène ?
Ouais, j'ai l'impression de revenir en boucle, mais finalement, c'était un beau résumé qu'il faut beaucoup d'adjectifs, mais de critères. Je passe.
Nous avons donc évoqué la question de l'amour propre avec vous et la manière dont ça peut influencer du coup nos relations, que ce soit de manière positive ou négative, notre manière de vivre l'amour. Nous allons donc maintenant entendre une fiction imaginée et réalisée par Martin.
Et sinon, ça allait ta journée ?
Oui, j'ai passé une très bonne journée. Enfin, aujourd'hui, je
suis au travail. Ok, c'est Martin. Elle est là, devant moi. Je suis là, devant elle. Je l'aime, merde. C'est simple à dire quand même. Bah non, j'ai le cœur qui bat si fort. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'aime ton sourire, j'aime ta voix, j'aime tes yeux. Je t'aime. Trois mots, sept lettres. Pourquoi j'en perds mes moyens ? Putain, je le sens, je fais tout foirer. Elle va rigoler, c'est sûr. Et je m'en voudrais. Oh là. Allez mon grand. Respire. C'est elle et pas une autre. Allez. Lance-toi. Excuse-moi. T'as de la salade entre les dents.
Ah merde. Bah merci. Ouais bref du coup je disais ouais non c'est ça.
Sérieux. Tu sors ça. Franchement mec. Trois mots. Trois putains de mots. C'est si dur que ça. C'est pas compliqué. C'est ton soleil. Tu peux pas abandonner. Elle est si belle, si drôle, si gentille. La prochaine fois, c'est la bonne.
Et voilà, je pense qu'on a fait le début de l'année. Bon, bah, je pensais qu'il allait me dire qu'il m'aimait. Mais bon, apparemment, je parais si proche. C'est dommage. Trop cool.
On vient d'entendre une scène de couple dans un café. Est-ce que ça ressemble toujours ça à l'amour ? Ça, l'amour, pardon. Un homme et une femme qui se regardent dans le blanc des yeux. Est-ce qu'on n'a pas déconstruit plus que ça, Tiffaine ?
Bah, je ne sais pas à quoi ça ressemble, l'amour. Je crois que ça ressemble aux gens qui s'aiment. Enfin, je veux dire, c'est à chaque fois différent. Je pense que... Enfin, oui, j'ai l'impression que... On peut vraiment avoir l'air très, très bête quand on est amoureux. On peut avoir l'air très, très intense. Et je trouve que c'est une jolie preuve d'amour de dire t'as de la salade dans les dents.
Je trouve aussi. Pour pouvoir parler des constructions, on doit aborder la dimension politique de l'amour. En préparant l'émission, ça a beaucoup fait débat. On s'est demandé si l'amour était politisé. Pensez-vous que ça l'est aujourd'hui, Claire ?
Oui, je le pense.
Et pourquoi ?
Les relations de couple. Alors, nous, il se trouve que c'est un sujet qu'on a travaillé dans notre précédent spectacle. Et alors, on a travaillé plus précisément, parce qu'il faut préciser quand on parle de couple, sur le couple hétérosexuel. Attention, précisons. Sur ce couple, ce modèle normatif-là. Et dans ce cadre-là, effectivement, en fait, c'est la plus petite cellule de la société où se retrouve le rapport homme-femme. Et donc, ce rapport homme-femme, on sait comment il fonctionne dans la société, dans son ensemble. Donc forcément, dans cette toute petite cellule, dont on pourrait croire qu'elle est protégée par cette fabuleuse magie de l'amour, ça se passe de la même façon. Il y a énormément de pièges qu'on ne voit pas toujours, qu'on tarde à voir. On reproduit énormément de schémas. de domination d'un côté, de schéma de soumission de l'autre. Donc oui, en ça, c'est forcément politique, puisqu'en fait, on est des êtres sociaux aussi. Donc on est des êtres sociaux qui nous aimons.
Naïssam, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que l'imaginaire et l'art peuvent participer à déconstruire les normes, hétéronormées?
Moi, ce que je pense, c'est que pour le moment, l'imaginaire et l'art, ils ont surtout servi à reproduire des schémas ancestraux et à nous abreuver à des espèces de rêves romantiques, hyper romantiques, hyper stylisés, qu'on a tendance à vouloir reproduire dans nos vies intimes et qui vont, en fait, nous trahir. Parce que en fait, vivre dans ces schémas romantiques qui sont véhiculés justement par toutes ces chansons sublimes de Jacques Brel notamment, et ben ça nous fait vivre dans un fantasme. Et un fantasme, c'est pas la réalité. Et donc être éperdument amoureuse d'un fantasme, c'est le meilleur moyen de te prendre la claque de ta life. Voilà. Donc je pense. Je ne vais pas développer des heures et des heures, parce qu'en fait, il y a un bouquin que je vais vous recommander qui s'appelle Réinventer l'amour.
Réinventer l'amour.
Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, de Mona Chollet. Voilà. Et j'invite tous les hommes et toutes les femmes à lire ce bouquin, parce que c'est une claque dans ta face. Et qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ma vie amoureuse, dans ma vie de femme, j'avais reproduit un certain nombre de schémas de manière inconsciente, et qu'en les lisant dans ce bouquin et en me rendant compte que c'était des schémas du patriarcat, et ben déjà d'une, ça m'a mis une claque, parce que je me suis rendu compte que j'avais juste reproduit des choses qui m'appartenaient pas du tout, et de deux, ça m'a fait du bien parce que je me suis sentie moins seule aussi, parce que du coup je me suis rendu compte que c'était pas moi qui étais complètement conne, mais que c'était le patriarcat qui m'avait forgée à grandir avec ces schémas là et à les reproduire dans ma vie intime. Et je pense que si on veut avoir des relations heureuses en amour, en tout cas, je parle dans le cadre de relations hétérosexuelles, il faut qu'il y ait un travail qui se fasse des deux côtés, de déconstruction et de libération et d'émancipation de ces schémas-là.
Oui,
c'est hyper important.
Pour ajouter un mot là-dessus, je pense que oui, en effet, c'est important aussi de déculpabiliser les femmes et d'éviter d'à chaque fois leur remettre le fardeau de « non, mais t'es trop bête, comment t'as pu t'en rendre compte, comment t'as pu rester avec quelqu'un comme ça ?» Alors que, en fait, c'est des choses qu'on nous a inculquées depuis tout petit, toute petite surtout, que on a un seul homme dans notre vie, qu'on doit rester toute sa vie avec, qu'il y a des hauts et des bas, mais il faut les supporter parce que c'est ça l'amour aussi. Alors que c'est pas forcément le cas et que parfois ça devient juste abusif. On est juste trop embourbé pour pouvoir s'en rendre compte. Les proches parfois n'aident pas non plus parce qu'ils perpétuent aussi cette idée patriarcale de mais non, c'est qu'une passe, ça va aller, alors qu'ils savent pas forcément les dessous de la relation. Et voilà, je pense qu'il faut être plus à l'écoute des femmes et de leurs ressentis, de leurs sentiments, et accepter aussi le fait qu'elles puissent faire des erreurs sans pour autant leur balancer toutes les injures du monde à la tronche.
Bon, moi je vais parler d'un autre couple, plutôt du côté homosexuel. Donc, est-ce qu'on doit s'aimer selon des normes universelles? Donc, Claire Tiffen, vous avez travaillé sur différentes communautés de femmes à travers le monde et le temps. Et je vous avoue que la communauté des femmes lesbiennes de l'Oregon m'ont bien donné envie d'y faire un petit séjour. Donc j'aimerais vous poser la question, est-il possible de s'aimer selon ses propres règles et comment étendre cette liberté à la société?
C'est très vaste, c'est très intense, hein, vos questions.
Wow, on est là.
Déjà, ça, voilà, t'as vraiment beaucoup dit. Nous, Mona Chollet, on l'a lu en long, en large, en travers. Évidemment. Et donc, c'est un travail de déconstruction, de presque de décolonisation de nos imaginaires. Et c'est ardu, en fait. C'est vraiment ardu comme travail. Parce que, on a beau lire des bouquins, des essais, essayer de on voit rationnellement les choses, on essaie de mettre en place des trucs dans sa vie. Mais quand c'est carrément le fond de notre imaginaire qui a été forgé par ça, c'est y a quelque chose qui nous dépasse un peu. Et moi, je suis un peu... aujourd'hui, je me dis, c'est compliqué, quoi. Parce que même en lisant des bouquins, en travaillant sur ces sujets-là et tout, mais je vois les pièges... presque maintenant, moi, je suis au bord d'un...
Les pièges trop tard, c'est ça que tu
dis ? Je vois les pièges trop tard. Ou alors, je
trop
veux...
Tôt.
C'est ça, je les anticipe. Et donc, je reste au bord comme ça et je me dis, oh mon Dieu.
Et j'avais lu dans un roman cette expression, mon penchant naturel pour la subordination. Alors je pense qu'il n'est pas très naturel, ce penchant, il est bien bien culturel, mais vraiment, c'est un travail qui est quand même âpre, et je sais que je ne suis pas au bout. Donc maintenant, je suis un peu en tétanie de me dire, mon Dieu, je vais retomber dans ces trucs-là, je ne veux pas, parce que ce n'est pas ça qui me rend heureuse. Mmh. Après, je me dis, ça va peut-être prendre encore du temps, peut-être à 70 ans, j'arriverai à aimer selon mes propres règles. Mais en tout cas, pour revenir sur la communauté de femmes lesbiennes dans l'Oregon dans les années 70, elles ont voulu partir parce que c'était vraiment impossible en fait d'être lesbienne à ce moment-là, et c'était vraiment politique que de se sortir du patriarcat. Et donc elles ont créé, c'est une sorte d'utopie en acte qu'elles ont réalisée, et donc en ça c'est extrêmement inspirant. Évidemment que même quand on fait ces choix-là, et qui sont des choix libres, puissants, et qui donnent du pouvoir pour soi et pour les femmes autour, c'était pas facile. Hein. Moi, je me dis que toutes ces tentatives-là, elles laissent de la poussière de lumière dans quelque part, et que ça nous, ça nous forge aussi. Dans des strates inconscientes, invisibles, je sais pas, ça contribue à modifier des imaginaires, à nourrir d'autres façons de voir.
Si demain vous deviez inventer votre communauté, quelles seraient vos règles ?
Aïe, aïe, aïe.
Alors,
vous avez le droit à tout.
C'est libre.
On va dire deux règles. Les deux règles principales de la communauté.
Non, c'est très intense. Il y a des AG de 4 heures pour arriver à écrire...
Une règle.
Une règle, je veux dire.
Se définir les règles collectivement, en fait.
Voilà.
Déjà, ce serait la première règle.
C'est ça.
C'est clair.
Aucune règle tant qu'elle n'est pas définie par l'ensemble de la communauté.
Bravo. Voilà.
Donc on attend la communauté pour les définir.
Ah. Très bonne réponse.
Solal, vous avez travaillé sur des questions du genre, de la représentation de la virilité. Comment on s'affranchit des injonctions de la masculinité ? Dans les films mainstream, dans la pop culture, c'est souvent l'image de l'homme fort à qui on peut compter, c'est le personnage principal. En gros, comment on change l'image de l'homme dans le couple, dans la famille et dans la société ?
Je vais répondre à cette question sous le spectre de mon travail qui s'appelle Collage-Ravage ou Ravage-Collage. Une pièce que j'ai faite qui parle des questions de représentation, par exemple, de la masculinité. Il faut savoir que c'est que on performe en fait le genre, que ce soit masculin ou féminin. Et c'est vrai qu'il y a une injonction, donc pour les hommes, plein d'injonctions. Et par exemple, moi, je viens du milieu du breakdance, donc qui est celui du battle. Et dans le breakdance, en fait, j'ai trouvé une certaine limite. Il y avait un endroit où il fallait être très explosif, il fallait être c'est une compétition. Et moi, j'avais envie, en fait, de douceur. J'avais envie de sensualité, de fragilité, de tendresse, qui sont des choses pas forcément évidentes en tant qu'homme, dans l'héritage qu'on reçoit du patriarcat, mais paternel aussi. Le silence de nos pères. C'est difficile pour un homme de se montrer vulnérable. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Donc ça, c'est des choses que j'ai traversées. Comment s'y prendre ? Il faut oser, évidemment. Je rebondis aussi par rapport à, encore une fois, la question de l'homosexualité. Je pense qu'on peut éprouver, comme je le disais, de la tendresse et de la douceur entre hommes. Et c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la sexualité, en fait. Parce qu'il faut faire la distinction, justement, avec la sexualité, qui est une chose, le genre, une autre. Et j'imagine l'amour et le sujet aujourd'hui, c'est encore autre chose.
On est toujours au 4 Saint-Louis, au Grand Australie, avec Solal Mariott, Naïssam Jalal, Tiffaine Gentillot et Claire Fretel, de la compagnie des filles de Simone. On reçoit maintenant Joyce, accompagnée de Noan, pour leur chronique. Ils reviennent sur toutes ces histoires de représentation de femmes et d'hommes qu'on a évoquées. On est content d'être avec vous, on vous écoute.
À la jeunesse, les micros !
Les micros.
Ils sont à qui ?
Ils sont à nous !
En maternelle.
Quoi de mieux pour savoir ce que c'est l'amour? Les princesses, pas vrai? Bon, la seule princesse qui me ressemble, c'est Tiana. Celle qui embrasse une grenouille. Enfin, la grenouille. Ce n'est pas parce qu'elle embrasse la grenouille qu'elle me ressemble, mais parce que c'est la seule princesse Disney noire. Après, quand je regarde les autres princesses avec leur prince charmant, là pour les délivrer, bah, je suis pas mal avec ma petite grenouille, puisque c'est moi qui la délivre. Toutefois, ça m'a calmée quand j'ai vu un gros crapaud.
En primaire.
J'arrive à l'école, et là, il y a des histoires d'amour. Des amourettes, comme j'aime bien le dire. Et ça parle déjà mariage.
On se disait naïvement dans la cour des choses comme...
Je t'aime tellement.
Moi aussi, je t'aime.
Tu m'aimeras toujours.
Toujours.
Tu m'en fais la promesse.
Promis.
On aura une maison. Non, une villa. Mieux, un palace avec une piscine et un lama.
Ouais, tout ce que tu veux. Et aussi un chien.
On se marie maintenant?
Ouais.
Comment à cet âge-là, on pouvait déjà penser au mariage?
Au collège.
Je suis perdue et je sais plus quoi penser de l'amour. Hé, hey, tu es trop beau. On se met ensemble?
Si tu veux.
Une semaine plus tard. Tu penses à moi?
Un peu.
Deux semaines plus tard.
On n'est plus ensemble.
Mais quoi? C'est juste ça finalement l'amour? Je suis dégoûtée.
Au lycée.
Je repense aux princesses. Il faut que je sois traitée comme une princesse. Mais la réalité me rattrape. Qui dit puberté dit désir charnel.
Moi, je pensais que je resterais toute ma vie avec elle. Je pensais pas que ça s'arrêterait en deux secondes.
Des fois.
Souvent.
Tout le temps.
On est déçus. C'était qu'un rapport physique, d'image, presque comme un concours de beauté.
Moi, je déteste les concours de beauté, la rivalité. Je suis là pour être aimée, pas pour gagner.
À l'université.
Tu as tellement été déçue que tu te replies sur les applis de rencontres.
Un si grand catalogue d'humains que je m'y perds. Tu cherches quoi au final? Que quelqu'un t'aime ou quelqu'un qui t'aime?
Au final, on sait plus c'est quoi l'amour.
À la jeunesse, les micros.
Merci Joyce et Noan pour votre super chronique. C'est la transition parfaite pour évoquer l'amour contemporain. Maëlie, tu avais envie de nous parler des applications de rencontres.
J'aimerais d'abord poser la question à tout le monde. Est-ce que vous avez déjà utilisé des applis de rencontres, oui ou non?
Ouais.
Moi aussi.
Ouais, ouais, ouais. Et vous?
Oui.
Moi non.
Moi non plus.
Non plus.
Old school.
Vieille dame.
Personnellement, j'ai déjà utilisé, et pour moi, ça plus était un passe-temps. Solal, comment on aime dans un monde catalogue où la plupart des jeunes sont sur des applications de rencontres?
Mais pas tout le monde apparemment est sur les applis de rencontres. C'est quelque chose forcément un peu générationnel, oui. Quelle est la solution? Moi, je pense que l'amour, c'est propre à chacun, mais c'est une rencontre. Et c'est vrai que bah, c'est malheureux. Enfin, malheureux, Tinder, c'est des algorithmes, etc. Si tu payes plus, et bah, alors tu pourras plus swiper, etc. Enfin, c'est du business, c'est un marché, etc. C'est pas l'amour, celui de la spontanéité, celui de la rencontre, celui... Puis on est effectivement dans un catalogue où on joue sur tellement de stéréotypes, on se met en scène en fait, alors qu'effectivement c'est peut-être la personne qui aura quelque chose entre les dents, une salade entre les dents qu'on va trouver séduisante ou séduisant. Disons que moi en l'occurrence c'était dans des moments un peu de détresse, de solitude, ça a pu être amusant, je pense que c'est aussi quelque chose propre à ma génération de s'y frotter, de te confronter à ça. Je ne suis pas expert en la question, mais je sais qu'il y a maintenant de plus en plus d'applications qui prennent la tangente, en tout cas qui sont plus éthiques, ou qui proposent des trucs avec des fruits, qui proposent Grindr, une spécialisée pour les personnes homosexuelles, etc. Je pense qu'il y a des personnes qui trouvent aussi leur bonheur là-dedans.
Le mariage est une représentation de l'amour encore bien ancrée dans notre société. Ce besoin de montrer notre amour au monde. Mais c'est une représentation qui coûte cher. Est-ce que c'est normal que ça coûte cher d'aimer financièrement, mais aussi mentalement? Naïssam.
Est-ce que tu peux développer ta question?
Pour moi, en tout cas d'après moi, le mariage, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans nos têtes depuis plus jeune âge, que ce soit avec les séries, les films, les livres. Et c'est quelque chose qui est encore très marqué dans notre société, le besoin de se marier, d'avoir... femmes, des enfants, mais au final on se rend compte que c'est quelque chose qui coûte cher et que c'est limite un jeu à montrer avec l'argent comment on aime la personne, faire un grand mariage avec plein d'invités, mais est-ce que du coup pour vous c'est normal de devoir montrer de manière financière, et notre amour.
Au-delà de ça, est-ce que l'amour, c'est censé coûter?
Moi, j'ai jamais été là-dedans, en fait. Donc, c'est vrai que...
Ça ne vous parle pas?
Non, après, je vois de quoi tu parles. Je pense que de même qu'il y a des gens... En fait, je pense que les gens qui se marient pour montrer au monde qu'ils se marient et qui s'achètent des bagues de fiançailles de zinzin pour montrer au monde qu'ils ont des bagues de fiançailles de zinzin, bah, c'est une certaine, un certain type de gens. Voilà, j'ai envie de dire qu'ils sont vides et que du coup, ils remplissent leur vide comme ils peuvent. Et moi, j'ai de la peine pour eux. Enfin, tu vois. Après, si on vivait dans d'autres normes, ça serait d'autres normes. Ils rempliraient leur vide avec d'autres normes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. En fait, moi, je pense que le problème, c'est pas que l'amour coûte. Le problème, c'est qu'il y ait des gens qui soient suffisamment vides pour croire que l'amour, ça coûte. En fait, c'est ça, pour moi, le vrai problème. Tu vois. Après, je pense que tu... Je pense que si toi, t'es pas dans cette vision-là de l'amour... Et que tu te retrouves un jour à tomber amoureux de quelqu'un qui est dans cette vision de l'amour, bah en fait, très vite va y avoir clash et puis voilà, puis c'est réglé, pas, tu vois. En fait, il y a pas de sujet. Après, il y a aussi quelque chose où là, par contre, je te rejoins, c'est que au jour d'aujourd'hui dans notre société française, l'amour, il est reconnu comme légitime par l'administration que dans le cas où il y a mariage ou assimilé, genre Pax, machin.
Ouais.
Et du coup, ça induit certaines choses financièrement et administrativement aussi pour des gens qui s'aiment et qui, par exemple, sont dans des situations complexes en termes de papier, tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourraient dire, par exemple, bah, moi, cette personne, je l'aime, je veux vivre avec elle, qu'elle soit française ou qu'elle soit pas française, qu'elle soit en règle ou qu'elle soit pas en règle. Ouais. Et en fait, ils sont obligés de passer par la case mariage
pour pouvoir vivre leur amour.
Et donc, c'est là où, pour moi, il y a aussi un problème qui est là, du coup, qui est pas une question d'argent, parce que tu peux te marier pour rien en allant à la mairie aussi, tu vois. Mais du coup, t'es obligé d'accepter, en fait, de passer par une case qui est celle du mariage, alors qu'en fait, ton amour, il te suffit et tu n'aurais pas eu besoin forcément de passer par cette case de genre de légitimation de cet amour par la société pour pouvoir aimer et vivre ensemble. Voilà.
Dans un de ses textes, Brel avait évoqué un amour désintéressé, sans représentation. C'est le point de départ que Léa a choisi pour sa chronique. On l'écoute.
À la jeunesse, c'est les micros.
Les micros.
Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Ma mère m'a toujours dit que Brel avait tout dit, qu'il avait compris l'essence même de ce qu'était l'amour. J'avais 15 ans, c'était l'une des phrases que ma mère disait sans que je comprenne vraiment, dans la perpétuité de la tristesse. Maintenant que tu es loin, je la comprends. Parfois, la première fois que je t'ai vue, tu présentais tes peintures dans cette galerie immaculée de blanc. Tes toiles, aux teintes rouges, étaient le seul repos pour nos yeux éblouis. Tu y peignais la souffrance et l'injustice infligées à ton peuple. Tout le monde te respectait pour ça, moi, je t'aimais pour toi. Je ne savais pas encore que tu avais fui ton pays, je savais seulement qu'on avait des amis en commun et que tu aimais les mêmes choses que moi. C'était avant les élections de 2027. L'enjeu était majeur pour toi, tu étais stressée. Si il passait, c'était certain que tu allais nous quitter. Je pense encore à l'état d'insouciance dans lequel je vivais, à cette fille privilégiée que j'étais, ce luxe de ne pas avoir à m'intéresser à la politique. C'était avant que je comprenne que ma liberté ne m'était pas due et qu'il fallait que je me batte pour que la fille que j'aime reste avec moi en sécurité. Tu as dû partir, à cause des gens qui ne se sentent jamais concernés, sous prétexte que leurs quotidiens sont différents. Maintenant, on est en 2029. Je pense à toi qui es loin, je sais que tu vas bien. Tu lèves toujours ta voix pour montrer à tous, que la paix est quelque chose que l'on doit forger et non acheter. Nous pouvons montrer que l'amour est fluide et seuls nous pouvons connaître comment le vivre, qu'être physiquement loin de toi n'éloignera jamais mon cœur du tien. Même si tu es loin, tu sécheras toujours mes larmes, l'éclat de ton rire, l'arôme de ton parfum. Même avec la distance, tu calmeras toujours mes pleurs, même si la frontière nous sépare. Tu nourriras toujours mes espoirs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours.
À la jeunesse, les micros.
Merci à toi Léa pour cette chronique très émouvante. Elle nous amène à un pan de l'amour qu'on n'a pas encore abordé. L'envers de l'amour, les difficultés et les peines que ça peut créer.
Moi, je partage un peu un ressenti parce que moi, je parle deux langues et j'ai souvent communiqué l'amour par le français qui n'est pas du tout ma langue natale. Et ce n'est que dernièrement que j'ai un peu déconstruit tout ça en me rapprochant de ma langue natale qui est l'arabe et à dire Elimini, je t'aime et dire Kenbrick. Et moi, je voulais poser la question à Naïssam. Est-ce que toi aussi, tu communiques l'amour avec l'arabe ou le français ?
Alors déjà, ehna, souria, ma menoul menbrik, menoul menhabbak. Parce qu'en arabe, il y a aussi un mot pour dire l'amour. Je t'aime, c'est menhabbak, mahabbak. Donc ça, c'est ton dialecte
marocain.
Marocain que nous, on ne dit pas. Ou on peut dire bediak, mais ça, c'est vraiment un sens hyper sexuel. Quoi. C'est je te veux, quoi. Voilà. Bon,
voilà. Nous, on est un peu clash quand même.
Mais non, mais moi, alors la différence, c'est que moi, je suis née en France et ma première langue, ça a été le français. Donc, je pense que je suis super sincère quand je dis je t'aime en français. C'est pas une langue d'emprunt.
Je vois. Ouais.
Ouais, c'est. Mais je pense qu'on dit vraiment je t'aime que dans sa langue, sa première langue, en fait, la langue. Je sais pas si. Je pense que je pourrais mentir en disant I love you.
Ouais.
Ouais.
Mais je crois pas que je pourrais mentir en disant je t'aime.
Ouais. Je vois. Vous composez votre musique avec l'inspiration des deux cultures et vous allez bientôt, du coup, nous présenter un de vos morceaux. En attendant que.
Oui, mais allez vous installer.
Merci beaucoup. J'aimerais avoir votre avis, du coup, Solal, sur la question. Est-ce que, du coup, déjà, comme première question, est-ce que vous parlez plusieurs langues ? Est-ce que vous vous communiquez, du coup, avec vos proches avec plusieurs langues ?
Je parle français, je suis français, je parle anglais, je travaille en anglais souvent.
Et du coup, est-ce que pour vous, c'est plus compliqué de transmettre votre amour avec l'anglais qu'avec le français ?
Oui, de m'exprimer tout simplement sur des vastes sujets développés en anglais, ça sera un peu plus limité. Sachant qu'aussi le français est une belle langue, très complexe, mais c'est très 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 riche. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi en français. Mais ouais. J'ai déjà été amoureux avec une Taïwanaise, pour le coup, on parlait en anglais. Et par rapport à ça, j'imagine que pour elle, c'était pas sa langue maternelle, ni pour moi. On s'adapte. Hein. Pour le coup, je suis pas d'accord. Pour moi, je t'aime, I love you, ou peu importe le langage, finalement,
c'est la même chose.
Ça n'a pas d'importance le langage qu'on utilise, parce que je pense que ça vient d'autre part. Et on a utilisé cette formule, je t'aime, mais pour exprimer quelque chose qui dépasse les mots.
Merci. Vous êtes prête ? On vous écoute.
Alors, je précise juste que je vais jouer une improvisation au naï. Et le naï, c'est cette flûte en roseau, qui est la flûte arabe de tous les pays arabes.
Thank you. Making Waves Avignon présente
à la jeunesse
les micros.
Merci Naïssam pour ce beau morceau. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous a inspiré ?
En fait, j'étais un peu embêtée parce que depuis le début de l'émission, j'ai entendu des trucs qui m'ont pas tout à fait convenu sur ma double identité, sur le fait que je faisais un pont entre l'Orient, l'Occident, tout ça, c'est vraiment des clichés, en fait. Moi, je suis française d'origine syrienne. Je me sens arabe. Je me sens française. Mais pas que. Moi, petite, j'ai grandi avec des Africains de l'Ouest et du Nord. Et je me suis toujours identifiée autant aux Sénégalais et aux Maliens qu'aux Algériens et aux Marocains. Et en fait, Syrienne, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Petite, je croyais que c'était la cousine de Sirène, Ariel, la petite sirène.
C'est trop mignon.
Oui, voilà. Donc, en fait, je n'ai pas l'impression de faire des ponts. Moi, je suis pas là. Moi, je suis pas là pour faire des ponts, en fait. Si les gens ils sont pas capables de se parler, tant pis pour leur gueule, tu vois. Moi, je suis là pour en fait faire ce qui me fait du bien. Et ce qui me fait du bien, c'est exprimer ce qui m'habite profondément, ce qui me fait du mal, ce qui m'éblouit, ce qui me bouleverse. Et ça passe par l'expression dans un langage qui est le mien. Et ce langage-là. Parce que je ne suis pas née dans une tradition, parce que je ne suis pas héritière d'une tradition particulière, fait que je me suis intéressée à plein de vocabulaire. Donc je me suis intéressée évidemment au vocabulaire de la musique arabe. Je me suis aussi intéressée, enfin pas intéressée, j'ai grandi en France, donc j'ai été au conservatoire, donc j'ai assimilé et acquis le vocabulaire de la musique classique occidentale. Mais je me suis aussi émancipée de ça. Parce que pour moi, il y avait aussi un travail d'acculturation qui avait été fait par la musique occidentale pour m'éloigner de mes racines et me dire qu'en fait, la musique de mes parents, bah, en fait, c'était faux. Et que les chanteuses, elles chantaient faux parce qu'elles chantaient de la microtonalité. Donc, en fait, si tu veux, moi, je ne suis pas là pour faire des ponts et je ne fais pas de la musique orientale ou occidentale. Je fais ma musique. Et depuis des années, j'étudie la musique hindoustanique et la musique classique d'Inde du Nord. J'ai beaucoup, beaucoup joué avec des musiciens d'Afrique de l'Ouest. Je me sens très africaine, alors que je suis asiatique et française. Tu vois, je me sens aussi très, très proche des Afro-Américains, de la lutte pour leurs droits, pour l'égalité, en tant que fille d'immigrée en France, en tant qu'arabe, en tant que musulmane, de toutes les luttes que les Afro-Américains ont dû traverser encore aujourd'hui pour se faire reconnaître comme légitimes dans un pays qu'ils ont construit. Et du coup... En fait, je me suis dit, ah putain, c'est con. J'avais décidé de jouer du naï, et ben, je vais m'enfermer dans ce truc de l'oriental, alors que justement, j'ai pas envie d'être enfermée là-dedans. Du coup, je vous ai joué vraiment une improvisation très traditionnelle. Mais en fait, la vérité, c'est que ma musique, c'est pas ça. Voilà. C'est pas que ça.
Oui.
Voilà.
Bah, merci beaucoup pour votre sincérité, en tout cas.
Avec grand plaisir. Je sais pas être autrement.
C'est ce qu'il faut. Avant de conclure cette émission, j'avais quelque chose à dire qui me tenait à cœur. Dans cette dernière partie, on a un peu parlé du coup des rapports de domination. On a aussi parlé précédemment dans cette émission. Et les rapports de domination étaient très présents dans le passé et régissaient les relations que l'on entretenait avec les autres. En tant que femme, notre parole n'était pas prise en compte, elle ne valait rien. On devait dépendre des hommes pour absolument tout. On leur appartenait et on les servait. Ces rapports ont évolué avec le temps et ont aussi changé. En France, les femmes sont de plus en plus libres, libres d'aimer, de partager, de désirer. Je pense souvent avec humour, ou non, qu'un monde sans hommes ne serait pas plus mal. Je pense alors à ces femmes dont vous nous avez parlé, Tiphaine et Claire, qui ont osé créer ce que j'avais uniquement dans un coin de ma tête. Je pense également à vous, Solal, et votre parcours qui aide à la déconstruction de l'image masculine qui est parfois néfaste et ça me donne de l'espoir. Vous me donnez de l'espoir. Et enfin, je pense à vous, Naïssam, votre musique transperçante, vos mots justes et vrais et sincères. Merci beaucoup pour votre transparence et pour toute la sincérité que vous nous avez donnée aujourd'hui. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci pour l'amour que vous nous avez donné lors de cette émission. Pour conclure, une question très large à laquelle vous devez répondre en quelques mots. Est-ce que c'est possible d'être artiste
sans amour. Vous pouvez commencer, Naïssam.
Ah bah oui, bien sûr.
Non, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est eu un type d'amour.
Je suis d'accord avec vous. Et vous ?
Moi, je ne crois pas, mais je ne crois pas qu'il soit possible de vivre sans amour. Et encore une fois, n'importe quel amour, en fait. Tant qu'être humain, je crois qu'on se dessèche, on meurt, en fait. Ouais. On a besoin plus que de manger, je crois.
Je suis bien d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord avec cette réponse.
Oui.
Et vous, Solal ?
Oui, moi, je parlerais de passion. Ce n'est pas au propre de l'artiste, mais par exemple, un cuisinier qui fait avec passion ce qu'il fait... ça fera la grande différence, tout simplement, pour chaque corps de métier, que ce soit artiste ou autre chose, c'est faire les choses avec passion.
Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci au public présent. Merci à Kaotar, Maëli, Martin, Noan, Joyce, Léa. Merci à Iman et Clément pour la réalisation. Merci à Neil pour le soutien. Merci à vous, encore une fois, pour cette émission. C'était à la jeunesse, les micros. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour parler d'une émission autour de la notion de frontière. Elle s'appelle « Je ne m'abaisse pas aux marches de ton palais ». Nous recevrons Milorao, Kubra Academy et Mathilde Schneider. C'était Jade et à demain.
C'était Making Waves Avignon à la Jeunesse Les Micros.
Une série d'émissions enregistrées en public en juillet 2025
lors de la 79e édition du Festival d'Avignon.
Un projet
et une production de Making Waves.
Les Micros.